Sous l'arbre à palabres. Avec Monico sur Marmite FM 88.4. L'arbre à palabres avec Monico sur Marmite FM 88.4.
Bonjour, c'est Monico sous son arbre à palabres sur Radio Marmite 88.4. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir pour la deuxième fois mon amie Véronique Diarra. Elle était venue exactement le 20 juin 2018. Elle nous avait parlé de ses deux premiers livres et là, elle va venir nous parler des suivants. Bonjour Véronique.
Bonjour Monico.
Je crois qu'il y a eu quelques petites modifications dans ta vie. Donc, peux-tu nous en parler ? Tu nous avais dit que tu étais enseignante.
C'est vrai. Effectivement, j'ai enseigné. Je suis enseignante de formation. Je suis enseignante certifiée. Je peux enseigner de la sixième à la première. Je me suis permis de faire quelques remplacements en école primaire et maternelle, ce qui était charmant. Et puis, quand j'ai été saisie par la passion de l'écriture, eh bien, j'ai laissé de côté mes chers élèves et je me suis plongée dans la littérature et l'histoire pour devenir romancière spécialisée en histoire et pas n'importe laquelle, l'histoire d'Afrique. Merveilleuse, flamboyante, faramineuse.
Ben écoute, tes élèves, ils liront tes livres. Ils n'auront plus professeur, mais ils auront l'écrivain. Voilà. C'est dommage qu'à la radio, vous ne voyez pas la tête de notre monteur son, parce qu'il est enthousiasmé devant l'enthousiasme de Véronique.
Oui, tout à
fait. Alors Véronique, parle-nous de redis-nous les titres quand même de tes deux premiers livres, comme piqûre de rappel, et après on parle des autres.
Une petite piqûre de rappel. Pour Chouka, la danseuse sacrée, mon tout premier roman, mon premier bébé.
Ton premier bébé.
Qui raconte le début de l'esclavage en Afrique. De manière très imagée,
très
un
romancée.
Peu comme un conte,
oui.
Où les pays, où les personnages ont des noms inventés. Mais je dévoile la vérité sur la personne qui a donné l'ordre de pratiquer l'esclavage, sur les personnes qui ont agressé les pays d'Afrique, et je dis bien agressé.
Et moi, je dois reconnaître que quand je l'ai lu, j'ai appris plein de choses au sujet justement du rôle des Portugais, qui est très très important.
Oui.
Alors, le deuxième.
Le deuxième nous emmène à l'époque actuelle. C'est jusqu'à présent mon seul roman d'actualité. Je me permets de jeter un pavé dans la mare.
Et quelle actualité ?
Quelle actualité ? J'ose parler du harcèlement moral qui sévit encore en milieu scolaire en France actuellement. Et je parle précisément du harcèlement moral qui prend ses racines, dans le racisme. Parce que le racisme existe encore dans nos écoles. Il y a des élèves afro-descendants, originaires d'Afrique, originaires des Antilles, qui sont moqués, insultés, poursuivis et bousculés, même frappés, battus. Et tous les mots qu'on leur lance sont à consonance raciste.
Oui,
j'ose le dire parce que il faut que chacun de nous regarde en face ce problème pour pouvoir ensemble, jouant chacun sa partition, agir et faire reculer ce problème pour le chasser de France. Le harcèlement moral et le racisme ne sont pas dignes de la France que je connais.
Oui, et avec les événements actuels, c'est vraiment comme tu dis d'actualité. Alors, comme tu as beaucoup de choses à dire sur les deux autres livres, alors, tu les présentes ?
Oui, je les présente.
Ce sont les petits frères et les petites sœurs de ton premier bébé.
Voilà, tout à fait. Alors, le petit frère de « Non, je ne tairai plus » nous emmène au XVIIe siècle, précisément entre 1610 et 1687. Agnolet est Une vie d'Amazone raconte l'histoire d'une guerrière africaine, une guerrière du royaume Fon, située dans l'actuel Bénin. Et cette guerrière va vivre des aventures qui vont la mener dans plusieurs royaumes d'Afrique, je dis bien royaumes, et elle va terminer sa course auprès de la reine Zingambande, souveraine des royaumes fédérés d'Ongo et Matamba, qui plus tard deviendront Angola. Mais cette reine Zingambande a réellement existé et vraiment elle a fait la misère au roi Philippe le Magnifique du Portugal.
Alors dis donc, elle est guerrière, mais je pense que toi aussi tu as un côté guerrière. Hein, et c'est très bien comme ça.
Je suis
très
une bien. Femme de paix,
mais oui,
mais faut pas me chercher.
Alors, une chose qui me frappe, c'est qu'en fait, tous tes ouvrages, eh ben, ça demande, peut-être moi, puisque celui qui est d'actualité est là sur le harcèlement, il demande énormément de recherche. Et tu m'as expliqué un peu comment tu procédais. C'est très intéressant. Et puis, en plus, ça permet de se cultiver sur les différents, comment on peut dire, royaumes. Enfin, tous les royaumes qu'il y a eu. Et Dieu sait s'il y a eu des royaumes très importants en Afrique et qui font comprendre plein de choses sur la culture et des conséquences maintenant même des choses. Alors, dis-nous en plus quand même sur ce qu'elle a fait, cette guerrière ou reine-là. Ouais.
Ça m'intéresse. Alors, c'est la guerrière Agnon-Lété. Son nom signifie « tu es belle » en langue fon. Je ne suis pas sûre d'avoir la bonne prononciation. En tout cas, le cœur y est. J'ai voulu montrer que toute femme africaine est belle dans sa beauté naturelle et n'a pas besoin de chercher à ressembler à une autre pour que l'on reconnaisse qu'elle est magnifique. Je dis que les femmes noires sont les plus belles du monde. Nous sommes les plus belles, oui.
Attention à les chevilles.
Non, ce n'est pas une question de chevilles.
Non, mais je plaisante.
C'est la vérité. Oui. La preuve, c'est que partout dans le monde, des femmes ont recours à la chirurgie esthétique pour avoir des lèvres comme les nôtres, pour avoir une chute de rein comme la nôtre, pour avoir des cheveux comme les nôtres. Alors, il y en a qui prennent le risque de se griller au soleil, d'attraper brûlures et même maladies, tout ça pour avoir une peau plus foncée. Alors,
bon, moi, je préférais qu'on parle plus de la littérature. J'aurais aimé que tu nous en dises plus quand même sur cette femme guerrière. Elle te dit qu'elle a voulu aller découvrir autre chose. Elle voulait aller, c'est elle qui voulait aller voir un autre monde, passer les océans, tout ça, non?
Non, pas exactement. Disons que à cause d'un homme puissant qu'elle ne veut pas épouser. Car elle tient à respecter le code d'honneur des femmes guerrières, les Awangansi, les Mino, les Agodie, c'est ainsi qu'on les appelle dans la langue fon. Elle est obligée de fuir, de fuir et d'aller de place en place. Elle va aller dans le royaume Yoruba, qui correspond à l'actuel Nigeria. Elle va ensuite se rendre en Afrique centrale, et c'est là, à Luanda, donc dans l'actuel Angola, qu'elle rencontrera la reine Zinga. Dans ce roman, ce qui est intéressant, c'est de voir comment au XVIIe siècle, l'Afrique était faite de royaumes et d'empires structurés, puissants, gouvernés, et où la société était tellement bien organisée qu'il n'y avait pas de laisser pour compte.
Oui, alors, tu avais dit que c'est à ce moment-là, les gens, il n'y avait pas énormément de pauvreté.
Pas du tout.
Que les gens mangeaient, que tous mangeaient. Et en tout cas, il y avait peut-être des gens un peu plus riches. Mais dans l'ensemble, il n'y avait pas de pauvreté. Et tu as l'air de dire que c'était une société qui était bien organisée, bien hiérarchisée, c'est ça?
Certes, c'était des sociétés hiérarchisées. Sous forme de caste, il y avait certes un roi et sa famille, une aristocratie, et puis des intellectuels, des religieux, des artisans, des ouvriers, des paysans, des soldats. Mais ce qui est sûr, c'est que, exactement comme dans une termitière, chacun avait sa place, chacun avait son rôle et chacun avait son dû. Il n'y avait pas de miséreux qui n'avaient pas de maison ou qui mouraient de faim. parce que chacun avait un travail qu'il faisait bien et chacun avait suffisamment de nourriture, chacun pouvait s'habiller correctement, la nature était généreuse, l'artisanat était florissant et chacun avait ce qu'il lui fallait. Et on ne connaissait pas l'envie, on ne connaissait pas le désir de s'emparer de ce que les autres possédaient. Et surtout, on avait une pensée axée sur le partage et la bienveillance, sans oublier la bienséance.
Et je t'ai demandé, c'est les guerrières, là. On peut dire Amazon ou pas Amazon ?
Bon, Amazon...
Pas vraiment, tu m'as dit. Hein.
Pas vraiment, parce que les Amazones, c'était ces femmes de la mythologie grecque qui s'étaient installées sur une île pour échapper à l'autorité des hommes.
Oui. Donc, on dit guerrières.
Alors que les guerrières de l'actuel Bénin, c'était des femmes qui avaient choisi de défendre de toute leur force leur roi, leur peuple et tout leur pays afin qu'aucun envahisseur ne puisse s'en emparer. Leur devise, c'était vaincre ou mourir.
Donc, elles faisaient le choix de ne pas se marier, de ne pas devenir mère.
Voilà.
Et je t'ai demandé si elles avaient des arcs et tu m'as dit non, 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 elles ont...
Eh bien, certaines ont eu des arcs et des flèches, c'est possible, mais celles que moi j'ai présentées dans mon roman se battaient avec une lance qu'elle utilisait éventuellement comme un bâton de combat, un sabre et un couteau. Et puis elle pratiquait des arts martiaux qui faisaient d'elle de véritables machines de guerre. Tous leurs sens étaient développés au maximum, presque comme ceux des félins, presque comme ceux de tous ces animaux très très forts.
On voit de la souplesse, on imagine de la souplesse, oui. En même temps avec de la grâce.
La souplesse, la grâce, la force, elles avaient tout cela.
Tu n'aurais pas un passage à nous lire peut-être ?
Un passage, eh bien oui. La lutte corps à corps commence. On roule à terre, on s'agrippe, on se foudroie du regard, on se malmène mutuellement. Petit à petit, le groupe d'Agnonlettais prend le dessus. Les unes après les autres, les adversaires sont assommés. Wani coupe une liane avec son couteau afin d'immobiliser les adversaires. Agnonlettais, comment nous as-tu vu ? Et avais-tu besoin de me frapper si fort ? Proteste Awan en se frottant le front. Ton bonnet dépassait du tronc de l'arbre qui t'abritait mal, se justifie l'interpellé. En route, nous retournons au camp. Le pas victorieux pour les unes, le pas clopinant pour les autres, aux bras liés, elles cheminent jusqu'à se présenter devant Ganfela. Agnonlettais, le poing droit dans sa paume gauche, s'incline respectueusement. Ganfela, nous avons suivi notre itinéraire, nous avons capturé ce groupe. Elles se sont bien défendues. Awa m'a asséné un coup furieux. J'ai eu du mal à l'assommer. Détachez vos prisonnières et allez toutes vous soigner.
Très bien, ça met bien dans l'ambiance. On parle de l'autre livre ?
Oui, le dernier livre va nous emmener plus loin dans le passé puisque nous sommes au XIVe siècle. Nous sommes précisément en 1311 et 1312. Le dernier voyage du roi Abou Bakri Keïta. Au XIIIe siècle, Sundiata Keïta, le grand conquérant d'Afrique de l'Ouest, a conquis un empire et l'a constitué si grand qu'il était en Afrique de l'Ouest, au niveau du Sahel, aussi grand que l'Europe. Car partant de la mer au niveau du Sénégal et de la Gambie, il allait jusqu'au Tchad. Le petit-fils de ce grand conquérant, héritier de cet immense, immense empire bien structuré, décide d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de l'Atlantique, car il a étudié. Il existe une autre rive, il existe d'autres peuples. Abou Bakri, c'est son nom, décide de faire construire une flotte, d'y monter avec toute une suite, et plein d'animaux, plein d'objets d'artistiques. Et il va traverser la mer et il va découvrir une île peuplée de personnes que l'on appelle les Taïnos. Ils vont avoir ensemble une relation de commerce, une relation d'échange culturel et fraterniser au point que certains resteront sur cette île qui n'est autre que Haïti.
Ah, d'accord, c'est Haïti. Très intéressant tout ça, oui. Tu ne m'as pas parlé de Christophe Colomb.
Ah, mais Christophe Colomb n'arrivera que 180 ans après.
D'accord, mais parle-en quand même.
Eh bien, Christophe Colomb,
parce
lui...
Que je crois que tu m'as dit que Christophe Colomb lui-même avait reconnu ce qu'avait fait...
Aboubakri.
Oui, voilà.
Effectivement, Christophe Colomb, quand il est arrivé sur cette île qu'il prenait pour une île des Indes, il a interrogé, disons qu'il a pu, par geste, s'exprimer et se faire comprendre par les personnes qu'il voyait et qu'il appelait indiens. Et ces personnes lui ont dit... Tu n'es pas le premier à nous rendre visite depuis l'autre côté de la mer. Des gens sont venus il y a bien longtemps, mais ceux-là avaient la peau noire et les cheveux crépus. Certains d'entre eux sont restés parmi nous, se sont mariés, leur descendance est là. Vois, c'est un tel et un tel. Et Christophe Colomb a rédigé dans son journal qu'effectivement, il a vu des hommes noirs aux cheveux crépus parmi la population de cette île, qu'il a appelée Hispaniola, en l'offrant à son roi, Ferdinand de Castille.
Très bien. Eh bien, dis donc, c'est... on n'a qu'une envie, c'est de te lire. Où est-ce qu'on peut justement se les produire, se les procurer, je veux dire?
Alors, il se trouve que, comme les auteurs qui n'ont pas encore eu de prix Goncourt ou autre, j'inspire méfiance à la plupart des libraires, mais si vous commandez ce livre à votre libraire habituel, à la FNAC, à tout endroit où on peut avoir des livres, eh bien, vous pourrez l'obtenir. Le dernier voyage du roi Aboubakri Keïta de Véronique Diarra.
Et les autres aussi ?
Les autres aussi.
Aussi, oui.
Même sur Google, si vous tapez Véronique Diarra, sur Google, vous allez me voir apparaître avec tout ce que j'ai pu écrire.
Eh bien, c'est ce qu'a fait l'autre jour Michel de la librairie du Pavé dans la Mare où je parlais de toi. Il est allé directement sur... Elle a dit « Ah, elle a déjà écrit plusieurs livres ». Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, dès que ce sera possible, tu envisages de venir parmi nous et d'aller dans les différentes librairies, les différentes structures qui pourront t'accueillir. Donc, si des personnes nous entendent et ont envie que tu viennes, ça peut même être au domicile de quelqu'un, n'hésitez pas à contacter Véronique. Tu vas nous donner tes coordonnées. Et avant, il faut que tu dises que tu pars à Cannes pour un festival.
Dans quelques jours, je vais me rendre à Cannes pour le Festival international du film panafricain. Et cette année, j'ai le grand honneur d'être parmi les membres du jury. Et ce sera un jury essentiellement féminin.
Très bien, très très bien. Bravo Véronique, tu nous représentes bien. Merci. Donc, donne tes coordonnées.
Alors, je suis à Fontenay-aux-Roses, dans le 92, côté sud de Paris. Je suis sur l'email iridesadiara@gmail.com. Mais j'ai aussi un site sur Facebook, un site professionnel qui s'appelle Véronique Diarra raconte l'histoire africaine.
Eh bien, Véronique, on te remercie d'être venue. On te souhaite bonne chance.
Merci beaucoup.
Et femme guerrière, je vais t'appeler comme ça maintenant.
Je répète que je suis une femme de paix.
Mais ce n'est pas péjoratif, c'est admiratif. Guerrière dans ses idées, on va dire ça.
Oui.
Voilà. Eh bien, bonne chance à toi et puis merci d'être venue.
Merci
beaucoup. C'était Monico sur Radio Marmite 88.4 sous son arbre à palabre.
Sous l'arbre à palabre. Avec Monico sur Marmite FM 88.4. L'arbre à palabre avec Monico sur Marmite FM 88.4.